Show up early when you show up late, but it's not a fucking campaign. We're here to expropriate.
Oh well.
I came to eat ham and do damage on the microphone like a bandit. Damn it, I've received damage and carnage laid at the feet of do nothing political vermin.
You like to eat baguettes in the backseat of your Corvette in the morning, baby. I wanna plunge a screwdriver in the tires of your Corvette in the morning, baby. You wanna watch us slowly die while you accumulate higher and higher levels of wealth, baby? Maybe you should eat shit and die on the corners of life like the rest of us, maybe.
Yeah!
It's an abomination, combination of all things that make a nation what it is. It's a waste of time, a way to draw vines, a way to separate you from I. In our deepest inner matter, it's a blasphemous catastrophe. But it's got the best of me reciting things, stupid patriotic things that I never would think. It's a waste of brain, it's fucking insane that we're not more insane.
Your back, cause I'm your running mate. I show up early when you show up late, but it's not a fucking campaign. We're here to expropriate.
Oh well.
I came to eat ham and do damage on the microphone like a bandit. Damn it, I've received damage and carnage laid at the feet of do nothing political vermin.
You like to eat baguettes in the backseat of your Corvette in the morning, baby. I wanna plunge a screwdriver in the tires of your Corvette in the morning, baby. You wanna watch us slowly die while you accumulate higher and higher levels of wealth, baby? Maybe you should eat shit and die on the corners of life like the rest of us, maybe.
Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour sa 111e édition. C'est une date anniversaire. 1-1-1, ça nous fait quelque chose.
Ouais.
Et vous venez d'entendre un petit morceau de Slop Shop qui s'intitule Populiste Blues. Voilà, je connais pas ce groupe, je connais pas ce morceau, je connais rien. C'est José qui a choisi, et donc, comme vous connaissez le bestiau, vous devez vous douter que c'est en rapport avec le titre du livre de ce soir. Un livre de Yann Werner Müller, « Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace », édité par Premier Parallèle, une maison d'édition que je connais pas, en 2016. Donc c'est quelque chose de... c'est un bouquin très très récent. Qui essaie de définir ce phénomène, un peu protéiforme, qu'est le populisme, qui semble gagner en force un petit peu partout dans les pays occidentaux.
Et pas seulement occidentaux.
Pas seulement occidentaux, oui, un peu partout, c'est vrai. Mais qui est souvent plus ou moins réduit aussi à une insulte, du type, en gros, c'est ceux qui veulent conquérir le pouvoir alors qu'ils n'ont pas les titres pour le conquérir, a priori, même s'ils y arrivent, regardez Trump, qui, pourtant, pour, en termes de représentation du peuple, c'est assez étonnant, mais bon. Et voilà, donc, c'est une tentative voilà, de définition d'un terme qui est utilisé un peu à tort et à travers. Et c'est un livre plutôt intéressant. Voilà, donc c'est Jean-Mathias qui va faire le taf.
Et, ouais.
Et moi, je vais faire des contradictions et des objections stupides.
Ouais.
Avec plaisir.
Alors, tu dis, alors d'abord, première chose sur le bouquin, tu as dit que c'était un bouquin récent, c'est vrai, 2016. En même temps,
c'est la traduction qui est récente.
La traduction est récente, et surtout, en fait, c'est un livre qui est fait, qui date d'avant Trump et d'avant le Brexit, quand même. Donc, c'est récent, mais. Pas complètement. Après, c'est un livre qui est enfin, le Trump et le Brexit invalident pas, selon moi, le propos du bouquin. Alors, Yann Werner Müller, donc l'auteur de ça, c'est un spécialiste en sciences politiques qui bosse maintenant à Princeton. Donc voilà, il est dans les petits papiers de l'université
américaine.
Mais j'ai trouvé le bouquin remarquable de clarté, de précision, et globalement je suis plutôt d'accord en fait avec ce qui est avancé là-dedans. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là, qui est très clair, très facile à lire, c'est pas un livre technique du tout. On trouve d'abord une espèce de panorama des différents mouvements et formations qui peuvent être qualifiés de populistes aujourd'hui. Il y en a beaucoup, alors pas tous, hein, puisque encore une fois l'actualité récente en Angleterre ou enfin au Royaume-Uni ou aux États-Unis a rajouté encore des étages. Mais il y a comme ça un panorama qui est fait, assez large. Il y a aussi un panorama et un passage en revue de toutes les explications qui sont habituellement avancées pour dire ce que c'est que le populisme, le définir, éventuellement tenter de l'expliquer. Et puis il y a une vraie tentative rigoureuse de définir ce que c'est que le populisme en tant que position politique. Et ça, je trouve ça, en tant que tel, c'est un projet intéressant parce que c'est assez rarement fait, finalement, parce que, c'est, comme tu l'as dit, c'est une étiquette qui est très protéiforme, qui peut être appliquée à des tas de choses très, très différentes. Donc, il y a ça. Et moi, c'est un bouquin qui m'a intéressé. Alors, en tant que tel, ça, c'est ça son objectif. Hein. Il y a un travail de définition. Il fait un travail, en gros, de spécialiste de sciences politiques. Quoi. Quelles sont les explications qui tiennent la route? Quelles sont celles qui ne le tiennent pas? Est-ce que c'est une définition possible ou pas? Et voilà, il fait ça. Moi, c'est alors qu'un livre qui m'intéresse pour la question, du coup, qui fait titre, qu'est-ce que le populisme? Parce que je trouve que c'est une question qui est intéressante en soi, et puis qui pose la question de savoir, en fait, si on a affaire avec les différentes formes de mouvements qui relèvent du populisme à quelque chose d'inspiration démocratique ou pas. Moi, c'est ça, évidemment, qui m'intéresse. C'est le rapport entre populisme et démocratie, on va dire.
Ou le rapport entre populisme et césarisme.
Et démocratie en tant que telle. Parce qu'il me semble que souvent, y compris, enfin, ça peut être pas simplement chez les libertaires, hein, mais il y a des gens aujourd'hui dans la gauche radicale qui défendent l'idée qu'il faudrait construire et formuler un populisme de gauche, par exemple, en s'inspirant des expériences d'Amérique latine ou des résultats électoraux de Podemos en Espagne, par exemple, et qui revendique ça un peu comme l'avenir de la gauche radicale aujourd'hui, cette espèce de formula. Et je suis pas très convaincu par ça. Et en fait, le livre m'a aidé à clarifier un peu le pourquoi de cette méfiance. Et puis, alors, il y a cette tendance-là. Et en même temps, je crois que c'est aussi de manière plus ancienne une question qui est un petit peu sourde. Pas simplement du côté de la gauche radicale aujourd'hui un peu chic, mais des conceptions, je dirais, plébéiennes de la démocratie. Ça, c'est une question qui nous intéresse depuis assez longtemps. Et c'est pareil, je crois que le livre aide à clarifier des choses là-dessus. Ce que j'appelle les conceptions plébéiennes, c'est toutes celles qu'on trouve assez souvent, hein, notamment du côté des libertaires. L'idée qu'au fond, il y aurait la légitimité en démocratie, ça serait finalement le peuple contraint au mutisme, je dirais, qui la posséderait, et que le peuple qu'on empêche de dire, qu'on empêche de revendiquer, qu'on empêche de faire éruption dans le débat public, c'est ça qui définit la plèbe, je dirais.
Ça, c'est et un peu chez Rancière.
On a ça chez Rancière, on a donc, ça chez Foucault aussi.
Donc Rancière, philosophe, politique, ouais. A écrit La Mésentente, La haine de la démocratie, et beaucoup d'autres choses.
Mais c'est quelque chose, c'est une tendance qui est assez qui est réelle, hein, qui est assez ancienne. L'idée que, en gros, si tu veux, le peuple, c'est avant tout celui qui n'a pas la parole, et que du coup effectivement les véritables mouvements démocratiques, c'est ceux qui arrivent à faire irruption en quelque sorte, à entrer par effraction dans le débat public, parce que justement ils en sont forcément exclus, hein, par le sens commun, par les dominants, par tout ça. C'est pas complètement faux. Historiquement, ça a eu un rôle important, parce que ça remonte aux sans-culottes au moins, hein. Bon, sans parler, voilà,
la révolte des Tiompis, enfin t'as plein d'autres trucs,
il y a plein d'autres, mais si je prends l'histoire,
la sécession, la seconde sécession de l'Aventin, enfin bon, t'as des tas de choses.
Pour l'histoire politique moderne, voilà, il y a cette idée-là. Ça va avec une idée aussi de démocratie directe, très souvent, avec laquelle on a pas mal d'affinités quand on est libertaire. Et il me semble qu'il y a aussi là quelque chose qui relève d'une forme de populisme, du moins selon Müller, et auquel peut-être effectivement on doit aussi être un peu attentif. Voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est un ensemble de questions qui m'ont intéressé. Alors, je vais pas le dire tout ce qu'il y a dans le bouquin qui est assez... assez précis en fait, hein. c'est pas difficile à lire, mais c'est assez précis dans le détail. La première chose peut-être sur laquelle on peut démarrer, pour expliquer un peu la position de Müller dans Qu'est-ce que le populisme, c'est qu'il commence par écarter, alors d'abord, le panorama, pour bien savoir de quoi on parle. Populisme, c'est une étiquette qui peut décrire des choses très différentes, puisque ça peut décrire aussi bien des formations ou des mouvements classés plutôt à l'extrême droite, genre l'AfD allemande, Alternative für Deutschland, le parti de Viktor Orban en Hongrie, qui est au pouvoir, l'extrême droite autrichienne. C'est aussi le mouvement de Blücher en Suisse, Geert Wilders aux Pays-Bas, tout ça donc pour montrer le Front National en France, BP Grillo en Italie, avant lui Berlusconi, qui relève effectivement...
Et avant la Ligue du Nord.
Avant la Ligue du Nord, tous ces mouvements-là qui sont donc dans l'Europe, l'Europe occidentale, comme on dit, mais il n'y a pas que ça, hein, comme je précisais tout à l'heure, la Turquie de Erdogan, les Philippines... l'Amérique latine, c'est-à-dire notamment le Venezuela. Et puis, tu peux même aller au-delà, puisque tu l'as dit tout à l'heure, des dirigeants comme Trump ou Poutine sont aussi caractérisés comme étant des populistes. Ce qui nous fait quand même un sacré bazar, sachant que du coup, je l'ai indiqué, l'étiquette, elle est aussi revendiquée à gauche depuis quelque temps, par exemple par Podemos en Espagne.
Un temps par Syriza éventuellement.
Un temps par Syriza, mais il me semble là c'est plus compliqué parce que Syriza, bon déjà
Syriza est en Grèce.
C'est en Grèce, ils sont arrivés au pouvoir et il me semble que dès le départ il y avait effectivement une dimension populiste, mais qui était plus, comment dire, plus diffuse. Alors que c'est assumé et revendiqué comme tel par Podemos. Bon, donc ça décrit des choses très 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 diverses. Quand même, essentiellement des régimes plutôt autoritaires lorsque ces formations arrivent au pouvoir, et elles arrivent au pouvoir. Il ne s'agit pas simplement de partis protestataires, ça c'est un point important. Elles peuvent arriver au pouvoir, et Müller montre que quand elles arrivent au pouvoir, elles ont effectivement une pratique de gouvernement, hein, qui leur est propre. Donc elles peuvent arriver au pouvoir, même si elles sont souvent en attitude protestataire, c'est quand même souvent des formations autoritaires, ça on va le dire, mais ça ne suffit pas à caractériser. Des formations qui sont souvent racistes et xénophobes, mais pas toujours. C'est pas le cas par exemple du Venezuela ou de Podemos, et bien sûr. Donc on a quelque chose, c'est des formations qui sont classées à l'extrême droite ou plus rarement à gauche, mais parfois même il indique que, par exemple, le programme de Geert Wilders aux Pays-Bas, c'est en fait un programme qui économiquement et socialement est plutôt de nature centriste. Si on le classe sur l'échiquier, alors évidemment, c'est un centrisme qui est tout entier tourné contre les musulmans. Hein, donc ça c'est pas très centriste ou habituellement, mais du point de vue le contenu économique et social des mesures, la politique qui est proposée, elle, est plutôt classé au centre, donc il peut y avoir aussi une espèce de populisme du centre. On n'est pas obligé de défendre des options économiques classées habituellement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ce qui fait un sacré souk, en fait. Parce que, évidemment, du coup, on ne voit pas de cohérence idéologique à tout ça, à première vue. L'histoire du terme, ça ne nous aide pas beaucoup non plus, il rappelle ça, parce que les populistes, ça a d'abord désigné une espèce de socialisme agraire en Russie, dans les années 1860-70. Bon, là...
Il n'y a pas des populistes avant aux États-Unis, des
gens qui... Non, c'est un peu après. Un peu après, ou même période, c'est des contemporains. Et là, alors, ça ne se réclame pas du socialisme, mais plutôt de l'intérêt des petits exploitants agricoles, et de ce qu'ils appellent à l'époque l'homme de la rue, Main Street, hein, qui est opposé justement à Wall Street et aux intérêts de la finance. Mais c'est un truc qui est... Ce sont des mouvements qui sont très situés, si tu veux, dans le temps et dans l'histoire, aussi bien de la Russie que des États-Unis. Et ça n'a pas grand-chose à voir, par exemple, avec le Tea Party ou la droite alternative, qui sont qualifiés de populistes aujourd'hui aux États-Unis et qui ont aidé Trump à arriver au pouvoir. Donc, du point de vue idéologique, c'est très, 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 très nébuleux. Du point de vue historique, c'est assez situé, je dirais. Alors après, tu pourrais te poser la question de savoir, mais j'en ai déjà dit un mot, si c'est par exemple une attitude un peu spécifique par rapport aux institutions démocratiques ou par rapport au gouvernement, mais là c'est assez ambigu aussi, parce que si tu veux, t'as des partis protestataires là-dedans, BP Griot par exemple, typiquement en Italie, le mouvement 5 étoiles, hein, qui est arrivé en disant voilà, on va renverser la table, etc., mais qui a toutes les peines du monde à avoir une crédibilité en termes de prise de responsabilité ou d'assumer des responsabilités de gouvernement, et il n'a pas l'air de le chercher particulièrement. Tu peux te poser sérieusement la question de savoir si le Front National a jamais envisagé
De prendre le pouvoir
en France, même si évidemment...
Sujet du père, je crois que la réponse est assez claire, il en voulait pas.
Au sujet du père, la réponse est claire, au sujet de la fille, c'est encore en débat. Mais il y a vraiment débat, il me semble. Donc l'attitude protestataire, si tu veux, tu la repères. Mais il y a bien des partis de gouvernement et qui assument des responsabilités et qui ont une pratique gouvernementale. Je les ai cités tout à l'heure. Le rapport même de ces formations aux élections, il est assez ambigu, parce qu'à la fois, souvent, les formations populistes, ou classées comme telles, si tu veux, dénoncent les institutions, la classe politique, les médias, les corps intermédiaires aussi, très souvent. En même temps, elles participent la plupart du temps aux élections. Elles y participent. Il n'y a pas de stratégie extra-parlementaire, très peu. C'est pas comparable, par exemple, tu vois, je veux dire, au mouvement révolutionnaire, tu vois, au mouvement ouvrier, ou même au fascisme, on a dit, il y a très peu de SA ou de SS, si tu veux, dans les rues.
Il n'y a pas de milices armées, quoi, qui font pression sur le corps électoral.
T'en as pas en amont, après, les corps paramilitaires ou parapoliciers, peuvent éventuellement apparaître, mais c'est pas si tranché, si spectaculaire que ça. Ce qui fait que du point de vue, y compris même de la pratique, tu vois, politique ou de rapport aux institutions, t'as une assez grande diversité et tout ça. Alors, il repère quand même, il y a un trait, si tu veux, qui pourrait être caractéristique, c'est le rapport à l'élite, la dénonciation des élites. Alors ça, c'est un point qui est évidemment très important, parce que c'est ça qui rend le populisme populaire, je dirais. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement dénoncer des élites qui confisqueraient le pouvoir et la légitimité et la souveraineté du peuple, c'est populaire, c'est-à-dire que c'est gagnant effectivement d'un point de vue électoral. Donc là, c'est les 50 shades of dégagisme qu'on connaît aujourd'hui. Et alors là où c'est compliqué, c'est que ce que dit Müller, c'est que ce caractère anti-élitiste ou anti-élitaire, je sais pas comment il faut dire, du populisme, il est un peu ambigu, parce que pour le coup c'est une revendication qui peut parfaitement être démocratique, dit Müller. On peut parfaitement assumer d'un point de vue démocratique que y a des élites ou une minorité qui confisque le pouvoir et que donc les règles du jeu démocratique ne sont pas respectées. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Et simplement,
alors, ce qui est amusant, c'est de voir qu'un type comme Trump, quand on regarde son parcours, à peu près,
bien évidemment,
c'est un pur produit des élites américaines. Il est allé dans une des universités de la Ivy League, c'est-à-dire 7 ou 8 universités qui sont parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses. C'était University of Pennsylvania, c'était UPenn. En plus, c'est un New Yorkais, c'est-à-dire que c'est un Américain de l'Est, qui vient d'une ville cultivée, etc. Alors, lui, peut-être pas, mais c'est un pur produit des élites américaines. C'est ça qui est rigolo, quoi.
Alors, dans le cas de Trump, c'est évident. Et si tu veux, après, au-delà de tel ou tel, tu vois, personnage ou telle incarnation, ce truc anti-élitaire, c'est un truc qui intéresse Müller pour le coup, parce qu'il dit que voilà, effectivement, le contenu idéologique, ça marche pas, la pratique politique, ça marche pas. Là-dessus, il y a quelque chose qui est commun, et en même temps, d'après lui, c'est pas caractéristique en fait du populisme, parce que en fait, il s'aperçoit, tout le monde le sait en fait, au fond, tout le monde le devine, mais qu'au fond, donc d'une part, l'anti-élitisme n'est pas propre au populisme. Populiste, ça c'est clair. Et d'autre part, en fait, d'après Müller, et ça je trouve que c'est assez fin de sa part, il dit qu'en fait, le problème, c'est pas tellement les élites, en réalité, puisque en accédant au pouvoir, il n'y a pas de politique anti-élitiste de la part des populistes. Il n'y a pas de remise en question des élites économiques, il n'y a pas de remise en question. Rien à voir. C'est-à-dire, Wall Street devait s'effondrer après l'arrivée de Trump, il n'y a aucun problème. Ça tourne même plutôt pas mal. Pour l'instant, peut-être que ça marcherait, s'il fait des conneries, ça tournera peut-être moins, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il a le soutien à peu près clair, net et précis des élites économiques américaines. Il n'y a absolument pas de.
Vu ses réformes fiscales,
et voilà. Bon, puis tu l'as rappelé, le mec, c'est un pur produit de. Voilà. Donc évidemment, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai ailleurs. Hein, je veux dire, l'Autriche, enfin voilà, l'Autriche, la Hongrie, etc., ne sont pas des zones de révolution sociale, ça se saurait.
Et à partir de là, tu peux te dire quand même, est-ce que le populisme, ce n'est pas juste une stratégie commercialo-politique ?
Alors, ce n'est pas ce que dit Müller. Parce qu'il pense, et on va faire une petite pause avant ça, mais je lâche le morceau juste avant quand même, il pense qu'en fait, ce qui caractérise le populisme, c'est justement pas ça, l'anti-élitisme, là, mais c'est en fait la manière dont on légitime cette critique des élites. Le propre du populisme, d'après lui, en fait, c'est de revendiquer le monopole de la représentation du peuple. C'est la manière dont on va justifier la critique des élites qui définit une approche populiste ou pas. C'est-à-dire que c'est la caractéristique du populisme, c'est pas le rejet des élites, en fait, c'est le refus du pluralisme. C'est ça, le trait commun aux différentes formations et le projet politique du populisme, ce qui fait que c'est pas simplement un symptôme ou une technique de marketing électoral, et que c'est bien une position politique en tant que telle, et c'est important, je vais dire pourquoi après, de le repérer, c'est qu'il y a un discours, il y a une position qui est assumée, c'est le refus du pluralisme, et quand les populistes critiquent les élites, en fait ce qu'ils critiquent c'est leurs adversaires politiques, tous leurs adversaires politiques, voilà, qui font partie d'une manière ou d'une autre de l'élite, ou qui sont manipulés par cette élite-là. Voilà, on va peut-être faire un break là-dessus, puis on reprendra après sur ce point-là.
Bonjour monsieur, que pensez-vous de la politique ?
Arrête-toi, qu'est-ce que tu me teufles ?
Groupe de Hoï pour changer, c'était RAS.
C'est toujours bon, la musique populiste.
La musique populiste, donc choisie par José. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître ni publicité, de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit sur un livre donc d'un type qui s'appelle Müller, qui est Qu'est-ce que le populisme ? Et donc, juste avant la pause, on définissait finalement le populisme par une espèce de trait négatif, qui serait très négatif au sens de.
Caractéristique.
Donc, caractéristique, une caractéristique, voilà, par un ne pas, et ce ne pas, c'est surtout pas le pluralisme. Et donc, c'est ça qui, d'après Müller, distinguerait le populisme d'un simple mouvement politique qui a trouvé un créneau électoraliste qui lui permet de se vendre auprès des électeurs. Et donc, de ce point de vue-là, ce serait pas une simple façon d'accéder au pouvoir. ce serait un peu plus, ce serait
nettement plus.
Ce serait fondé sur une idée politique qui pourrait aussi expliquer ce que tu disais au tout début de l'émission, que très très souvent les populistes qui arrivent au pouvoir ont des tendances ou des pratiques autoritaires.
C'est pas souvent, c'est tout le temps.
D'accord.
En fait, c'est-à-dire que si tu veux, ce qui te montre là, bon, je vais pas développer trop là-dessus parce que c'est bien résumé dans le bouquin, mais il te montre que alors là pour le coup c'est commun au populisme classé plutôt à gauche ou plutôt à droite, c'est que les premières mesures ça consiste à mettre la main sur la constitution, c'est-à-dire à t'assurer effectivement des conditions du débat public, c'est-à-dire on essaie, alors ça passe par le débat public, c'est-à-dire c'est les opposants politiques, les médias qui sont forcément manipulés par les États-Unis, la Russie, l'Ukraine ou machin, voilà, ou les intérêts privés des élites, c'est-à-dire des gens qui sont pas d'accord avec voilà. Donc c'est les opposants politiques, les médias et toujours, encore une fois, ce qui est mis en avant, c'est toujours l'idée que tu as une formation qui, enfin, exprime le peuple en tant que tel. Il y a une formule, il reprend une formule de Erdogan que je trouve géniale, en fait, qui explique complètement son idée. C'est Erdogan, entre les deux tours de la dernière présidentielle turque, il arrive en tête. Débat télévisé de l'entre-deux tours, le type, il répond à peine à son adversaire, qui arrivait derrière, mais pas si loin derrière, il lui dit, écoutez, c'est simple, nous, on est le peuple, vous, vous êtes qui ? Voilà. Et là, en fait, on a la formule qui résume, si tu veux, de l'analyse que fait Müller. C'est-à-dire, le populiste, c'est celui qui réclame le monopole du peuple. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ne sont pas le peuple. C'est en ça, c'est ça le point important, après j'y reviendrai, mais c'est que du coup, d'après Müller, le populisme n'est pas démocratique. Il est même profondément hostile à ça. C'est-à-dire, il est hostile, si tu veux, au pluralisme, hein, et à l'idée que, si tu veux, le peuple serait précisément, par essence, divisé, contradictoire dans ses intérêts, dans ses valeurs, etc. Il t'affirme que le peuple, il est en fait homogène, c'est un corps substantiel, hein, et que lui, effectivement, leader populiste, ou eux, cadre des formations populistes, sont en quelque sorte en prise directe par rapport à ça.
Bah, c'était ce qui semblait être un des problèmes qu'avait posé Chavez, qui avait eu tendance à justement complètement ignorer, voire mépriser les syndicats.
Bien sûr, bah, les corps intermédiaires,
les corps intermédiaires qui peuvent prétendre représenter une partie du peuple.
Bien sûr.
Et à partir de là, tu vois, le chavisme, c'était aussi du genre, on n'en a plus besoin des syndicats, le peuple est au pouvoir.
Exactement. Exactement. Non, c'est tout à fait le cas. Et si tu veux, là, tu as un premier pas, y compris dans son propre camp. Il s'agit d'abord, effectivement, d'imposer son hégémonie, je reviendrai après sur ce terme-là, mais son hégémonie dans le propre cas, dans son propre camp. Puis après, évidemment, tes adversaires, et puis les adversaires politiques ou médiatiques, etc. Bon, ça, c'est un point qui est important. Alors, si tu veux, l'autre point, je trouve, qui est assez intéressant dans sa position, on peut discuter de ça, hein, mais c'est que, si tu veux, c'est la méthode qu'il prend, en fait, pour développer cette définition-là. C'est-à-dire qu'en fait, Müller, c'est quelqu'un qui prend ce que disent les gens au sérieux. Et ça, c'est un point qui est important, je trouve, parce que si tu veux, sur cette question du populisme, en fait, ce qu'on entend à longueur de temps chez les éditorialistes, les machins, etc., alors, le plus souvent, comme tu disais au départ, le populisme, c'est une étiquette, effectivement, de rejet, c'est un repoussoir. Ça, c'est Christophe Barbier, Jean-Michel Apathy, ok. Donc le populiste, c'est le gros beauf, tu vois, le gros beauf périurbain en France, le redneck texan, le pauvre paysan blédard du fin fond de l'Anatolie qui soutient Erdogan. C'est ça, en fait, le populisme. C'est-à-dire, c'est des gens qui en fait, effectivement, ne comprennent rien, en fait, à l'intérêt général et à la haute politique. Donc ça veut dire que le plus souvent, c'est une étiquette repoussoire. C'est là où c'est trouble, parce que si tu veux, c'est une étiquette qui est utilisée par des gens qui ne sont pas démocrates non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, qui sont en fait, ou plutôt qui ont une conception élitiste de la démocratie, pour être exact. Parce que c'est des gens qui peuvent éventuellement accepter le pluralisme. Barbier n'est pas forcément anti-pluraliste, ou pas toujours.
Mais pluraliste, voilà. Entre gens bien.
Pluraliste entre gens bien, voilà. Et donc, c'est-à-dire que le peuple, si tu veux, le peuple est quand même fondamentalement, enfin, tendanciellement crétin, et donc, effectivement, les populistes, bah, c'est ceux qui prennent, en fait, des promesses démocratiques au sérieux que les gens ont bien, en fait, ça, bon. Donc, évidemment, c'est ça. Donc, ça renforce, évidemment, en miroir, la légitimité de ceux qui disent, mais oui, mais les élites, machin et tout. Bon. Mais, en fait, si t'écoutes, effectivement, la manière, du coup, dont ces éditorialistes-là, la Barbier, etc., te parlent du populisme, qu'est-ce que t'as ? En fait, t'as toujours des explications qui sont... On explique le populisme ou les succès du populisme par des causes extérieures. On va te dire que c'est des causes sociologiques, des causes psychologiques, qu'est-ce qu'on va te dire ? On va te dire, c'est la sociologie de l'électorat qui te permet de comprendre. Par exemple, c'est des gens déclassés, ou qui ont peur d'être déclassés, ou c'est des chômeurs, ou des gens qui sont...
Taux de chômage.
Voilà, taux de chômage, déclassement, niveau d'études, etc., etc. On peut te rajouter une petite pincée de géographie là-dessus, les France périphériques, là, de Julie, tu vois, qui te disent, ben voilà, c'est les exclus de l'urbanisation, de la gentrification, c'est les gens qui sont en grande banlieue, qui sont obligés d'avoir deux bagnoles, des caméras de vidéo devant leur pavillon. pavillon qui est pas très loin des cités avec rempli de cambrioleurs arabes, et donc naturellement voilà. Donc voilà, tu fais des causes extérieures. C'est-à-dire que jamais dans ces analyses-là,
ils prennent en compte la
force propre.
Ce que disent les gens.
Pourquoi les gens sont d'accord avec ? Est-ce que les gens, ils se posent même pas la question de savoir en quoi et sur quoi les gens pourraient être d'accord ou pas complètement d'ailleurs avec ce que raconte Le Pen, Griot, Erdogan, machin, etc., Orban. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un point qui est important. Lui, il dit, quand on fait effectivement, quand on cherche à comprendre une position politique, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire comme si les gens ne comprenaient rien à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, ne comprenaient rien à ce qu'ils croient, et qu'en fait tout ça c'était finalement des symptômes de leurs conditions sociales, de machin. D'autant plus que ça marche pas, dit-il. Ça marche pas parce qu'en fait des sympathisants et des soutiens et des militants de ces formations populistes, on en trouve dans toutes les catégories sociales. Il y a peut-être des tendances statistiques et tout ça, c'est pas impossible, mais ça explique pas pourquoi effectivement dans toutes les classes sociales tu as trouvé.
Oui, tous les électeurs du Front National ne sont pas, je sais pas, à Lens, t'en as aussi dans le 16e.
Absolument. Mais pas mal, et t'en as toujours eu. Et la proportion dans l'appareil du Front National, par exemple, serait intéressante parce que la proportion d'ouvriers lensois dans l'appareil et dans les cadres du parti, bon, bref, je développe pas.
Donc il est très faible.
Bon, donc il y a ça. Donc déjà ça marche pas complètement. Et donc si ça marche pas complètement, ça veut dire que ça explique pas. C'est tout. Et voilà, le FDP autrichien est soutenu par une bonne partie des chefs d'entreprise ou des chefs de PME autrichiens. Ils sont pas déclassés. Vous avez des gens diplômés qui soutiennent aussi les populistes. Des gens qui sont pas diplômés, oui, mais aussi des gens diplômés. C'est-à-dire que les causes sociologiques, ça fonctionne très mal.
C'est insuffisant pour expliquer.
C'est pas suffisant. Alors, t'as aussi les explications, c'est les causes psychologiques. Extérieures, là encore. Bah oui, mais c'est fréquent.
Oui, hein? La peur.
Voilà, la peur, la paranoïa envers les choses étrangères, l'angoisse face à l'avenir, le goût de l'autorité. Et il y a eu des analyses prestigieuses là-dessus, hein, sur la personnalité autoritaire, dans la sociologie de l'école de Francfort. Tout ça sont des grilles d'analyse qui existent depuis très longtemps. Et il dit, là, c'est pareil, en fait, du coup, ça veut dire qu'on n'écoute pas, on ne prend pas en compte, en fait, ce qui est dit et ce qui est assumé par les gens. En fait, ils disent ça, mais parce que. Et hop, on parle à leur place parce qu'ils seraient paranoïaques, anxieux, machin, etc. Et il dit, ça colle pas non plus, parce que vous avez des gens qui sont parfaitement établis dans le 16e arrondissement. La peur de l'étranger, elle n'est pas physique, quoi. Hein? C'est... Alors bon, après, on peut rentrer dans... Il dit, le problème, c'est que si on commence à rentrer effectivement dans les fantasmes des uns et des autres, en fait, il dit, ça revient à réduire la politique à une espèce de thérapie de groupe, voilà, et sur laquelle il y aurait en fait des espèces d'experts en émotions sociales qui, voilà, bon...
Allez, parle-moi de tes angoisses.
Exactement. Et ça, je trouve que c'est assez fort, cette manière enfin, c'est assez intéressant, sa manière de faire. Ça dit pas tout. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux, il s'agit pas de dire que les sciences sociales n'ont rien à nous apprendre, etc. C'est pas ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ces données-là, elles sont importantes. Il y a par exemple une statistique qui rappelle, qui est difficile à interpréter, mais dit par exemple quand même, t'as une statistique qui est régulièrement, vérifiée. C'est qu'en fait, le populisme recrute très largement et beaucoup plus largement chez les hommes. Du point de vue de ses soutiens, de ses militants, etc. Alors les femmes sont moins attirées par ça. Alors bon, le problème c'est que si tu veux, t'as une donnée qui est hyper générale. Alors tu peux dire qu'effectivement t'as peut-être une forme de virilisme, voilà, dans le populisme, qui du coup, voilà, est plus bon. Puis tu aurais des explications à faire, bien sûr, hein, mais bon, le virilisme n'est pas le propre des formations populistes, hein. Tu peux le retrouver dans d'autres formations aussi, donc bon, non, pas mal même.
Ou quasiment toutes.
Voilà, donc si tu veux, c'est des... Mais il dit qu'à la limite, là, t'as une statistique qui effectivement a l'air d'être une tendance lourde, récurrente. Mais du coup, c'est tout ça, si tu veux, pour lui, en fait, est mis en avant pour dire que ces analyses-là, toutes les analyses externes, si tu veux, par les causes, en quelque sorte, hein, par les causes.
Et non par les raisons.
Et pas par les raisons, c'est-à-dire que les gens donnent. Toutes ces analyses-là, en fait, elles sont pas satisfaisantes. Elles sont pas satisfaisantes et en plus, elles sont, comment dire, politiquement, elles posent un problème parce que si tu veux discuter...
Elles peuvent renforcer le populisme.
Elles peuvent renforcer le populisme.
De toute façon, ils nous écoutent pas.
Exactement. Parce que tu parles et tu interprètes et tu fais, tu donnes le sens malgré ce que disent les gens ou ce que eux veulent dire.
Tu les objectifies comme d'habitude.
Voilà, bon, comme de bien entendu. Donc ça renforce effectivement ce type de positionnement-là. En tout cas, ça confirme les gens qui adoptent des convictions populistes dans le sentiment que justement ils sont le peuple et que les élites ne les comprennent pas et quitte à ne veulent pas les comprendre. Et c'est pas ce qui est efficace politiquement. D'une part, c'est de se cacher derrière son petit doigt parce qu'on comprend pas. On veut pas comprendre. Et deux, comme on veut pas comprendre, on n'est pas non plus efficace pour lutter contre ce qui se passe. Et donc, le fait de prendre en compte, si tu veux, d'essayer de caractériser, c'est ce qu'il fait, en fait, hein, le populisme, finalement, comme, voilà, l'affirmation, si tu veux, qu'il y a des gens qui représentent le monopole du peuple, et il y a des gens qui ne font pas partie du peuple. Et que le peuple, c'est un tout unique, homogène, qui n'a pas de division fondamentale, qui n'a pas de divergence d'intérêts insurmontable, et que certaines formations et certains leaders sont capables, en quelque sorte, d'exprimer directement ce que pense le peuple, la volonté du peuple. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bah, tout simplement, ils ne font pas partie du peuple. Ça, effectivement, ce refus du pluralisme-là, qui se réclame de la légitimité populaire, mais qui n'est pas démocratique, c'est le moteur, hein, du discours et du positionnement populiste.
Après, ce qui est inquiétant, c'est que ça fait aussi pas mal penser à cette montée du nationalisme qui précède et qui suit 1914, quand il s'agit de battre en brèche tous les mouvements ouvriers, qui s'appuient souvent sur l'idée de lutte des classes, et qu'on va justement leur opposer l'idée de l'unité nationale. Mmh. En disant que, justement, non, il faut arrêter de faire des divisions entre la nation, et ça, c'est, tu vois, ça fait...
Tu peux trouver, je pense que ce que dit Müller, ouais. Si tu veux, c'est que tu peux trouver des tendances populistes à peu près dans toutes les formations politiques.
Sans doute, mais est-ce que
ça aboutisse ? La question, c'est si tu veux, mais c'est ça, la question, si tu veux, c'est le nationalisme. On peut penser ce qu'on veut du nationalisme, hein, surtout ici, mais le nationalisme n'est pas nécessairement anti-pluraliste.
Pas toujours, en tout cas, mais...
Il pose une question. Alors ça, il y vient, il y a d'autres analyses, c'est pas chez lui, là, mais c'est notamment le bouquin qu'on avait évoqué ensemble autour de Dominique Rousseau, là. Il a des analyses assez fines de ça, de cette affaire-là. Il montre, en fait, que le nationalisme est probablement, dès le départ, ambigu à l'égard du pluralisme et de la démocratie. Parce qu'il y a des acquis, en fait, du nationalisme. Ça naît au moment de la Révolution française, quand même, cette affaire. Et le nationalisme, si tu veux, c'est aussi celui qui pose le fait que la volonté du peuple doit être construite, élaborée, délibérée. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas... Alors, en tout cas, le nationalisme républicain, c'est ça. Mmh. Le nationalisme républicain, c'est celui-là. C'est-à-dire que la volonté du peuple, elle n'est pas aux mains du roi, ou elle n'est pas aux mains... Non, elle doit être construite, elle doit être délibérée par un échange d'arguments. Donc, il y a une sphère, effectivement, de discussion qui est possible. Ça apparaît avec la Révolution française. Et en même temps, évidemment, le problème du nationalisme, c'est ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la nation, elle est une et indivisible, et que du coup, elle ne tolère pas, effectivement, en tout cas, elle referme tout de suite, si tu veux. Elle ouvre techniquement la possibilité de la discussion plurielle, des intérêts, les arguments, l'assemblée, etc. Et elle le fait. Et en même temps, paf, effectivement, elle te verrouille le truc derrière. Donc, il y a une ambiguïté du nationalisme, de ce point de vue-là. Hein. Et effectivement, il bascule tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le populisme, là, si tu veux, d'une certaine manière, il est clair sur la question.
Il n'y a plus d'ambiguïté.
Il n'y a plus d'ambiguïté. On lève l'ambiguïté. On lève cette ambiguïté. Effectivement, le peuple, c'est nous. Hein. Nous sommes le peuple. Hein. Qui êtes-vous ? Pour reprendre la formule d'Erdogan. Et alors, il y a un point qui est important, si tu veux, c'est qu'il dit, toujours sur ce rapport entre populisme et démocratie, il dit... Ça peut ressembler à une revendication démocratique, cette affaire-là. Sauf qu'en fait, il dit, tout repose sur un mot dans l'affaire. Il dit, en fait, une revendication est démocrate quand elle a un slogan du type « Nous aussi sommes le peuple ».
D'accord.
Nous aussi sommes le peuple. Là, il dit, évidemment, là-dessus, aucun problème, évidemment. Le mouvement ouvrier, c'est ça. Les droits civiques, c'est ça. Les mouvements féministes, c'est ça. Enfin, un mouvement démocrate.
Alors là, c'est nous seuls sommes le peuple.
Exactement. Si t'enlèves le aussi, tu fais du Erdogan. Tu vois ? Et tout tient effectivement sur ce mot-là. Le nous aussi sommes le peuple ou le nous sommes le peuple à nous seuls. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement, dans un cas, effectivement, tu revendiques un droit à la parole qui t'est dénié, qui t'est refusé, tu revendiques effectivement une publicité, une image, une visibilité, une reconnaissance, tout ce que tu veux, etc. Par des moyens, voilà, qui te paraîtront adéquats. Mais t'as pas la prétention, si tu veux, d'incarner à toi seul.
C'est là le monopole.
Ouais. Et oui, c'est ça. Le monopole de la représentation, il est là. T'as pas l'ambition de représenter à toi seul, effectivement, le peuple. C'est à partir du moment où tu mets ça en avant, effectivement, où tu exclues, en quelque sorte, a priori, ceux que le peuple puisse ne pas penser comme toi, ou qu'il puisse y avoir du peuple qui n'est pas ce que tu dis, ce que tu en dis, à partir du moment où t'es là-dedans, là, ça va plus. Alors, il dit, c'est pareil, il faut être aussi très prudent. Il y a des cas où ce type de revendication « nous sommes le peuple » historiquement sont aussi démocratiques. Alors ça, c'est quand tu es face à une dictature. Alors, hein, c'est, parce que nous sommes le peuple, c'est la revendication des manifestants à Leipzig en 89, avant la chute du mur. C'est la revendication à Tahrir, au Caire, en 2011.
Ah, mais justement, si tu prends les manifestations en Allemagne de l'Est,
bah, c'est ça.
Oui, bah justement, ils avaient aussi affaire à un parti qui prétendait être le peuple.
Exactement, exactement. Et qui lui revendiquait le monopole de la représentation. Aussi. Donc quand t'es face à ça, là, effectivement, le nous sommes le peuple, en fait, il veut dire nous aussi. Nous aussi et nous surtout, d'une certaine manière. Et là, c'est légitime, si tu veux, du point de vue démocratique, parce que t'es une dictature en face et que justement, ce que tu revendiques en disant nous sommes le peuple, c'est l'existence même d'une discussion pluraliste, en fait, qui n'existe pas.
Oui. Hein?
Donc là, évidemment, dans ce cas-là, t'es dans un cadre qui est démocratique. Mais si tu es au sein de...
Il y avait Place Tahrir aussi
Même slogan. Ah, c'est face à une dictature, c'est quelque chose qui voilà. Donc là, évidemment, le contexte te change évidemment la nature de la nature politique, hein, de la revendication. Mais quand t'es dans le cadre de la démocratie représentative, comme on dit parfois, là effectivement, le fait de s'arroger ce monopole là effectivement, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, ce truc. Et alors. Bon, on va peut-être faire une petite pause après la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on tire de ce type d'analyse-là. Il va pas beaucoup au-delà de cela, mais il le développe de manière assez convaincante. La question qu'on pourra se poser après la pause, c'est de savoir ce qu'on peut faire de cette affaire-là face à ceux qui revendiquent aujourd'hui une forme de populisme de gauche. Et ils sont en fait assez nombreux, même quand ils ne sont pas revendiqués, il y en a beaucoup qui ont une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de ce positionnement-là. Alors, est-ce que ça nous permet d'avancer sur cette question-là ? C'est la question.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et on l'espère dernière partie, avant de vous saouler trop. Et on vous parle d'un livre de Müller qui s'appelle « Qu'est-ce que le populisme ?» qui a été édité chez un éditeur que je connais pas, hein, Premier Parallèle, et qui cherche, comme on l'a vu dans les deux premières parties de l'émission, à définir un petit peu ce mouvement politique qui maintenant a une espèce de portée mondiale. Et donc, en, on a Jean-Mathias donc nous expliquait que Muller définissait le populisme par finalement la revendication du monopole de la parole populaire,
le refus du pluralisme
et conséquemment le refus du pluralisme, puisque si je représente le peuple, tout le peuple et rien que le peuple, il n'y a personne d'autre qui peut s'opposer à moi de manière légitime. Donc c'est deux choses qui sont qui sont liées logiquement, entre la revendication donc du monopole de la parole populaire et le refus du pluralisme, ça marche ensemble. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un populisme de gauche? Et s'il est de gauche, est-ce qu'il se distingue tant que ça du populisme de droite? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut faire place à un certain pluralisme? Ça se discute.
Ouais, alors, et je trouve que c'est une question qui n'est pas.
Ah oui, et vous venez d'entendre, excusez-moi, Jean-Jacques, quand même. Warsaw, donc Leaders of Men, Warsaw, c'est ce qui est donné après Joy Division.
Bon morceau.
Bon morceau, ouais.
Et ouais, donc ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire la question de savoir s'il peut y avoir un populisme de gauche. Après c'est peut-être mes marottes personnelles, mais je trouve que c'est une question qui est assez intéressante parce que par certains aspects, si tu veux, c'est quelque chose, c'est une tendance même telle qu'elle est définie par Muller là, cette espèce de rejet, de refus du pluralisme là, c'est une tendance qui en fait est quand même sous-jacente depuis assez longtemps dans l'histoire du mouvement ouvrier et même des mouvements révolutionnaires, je dirais. Parce que, en fait, ça remonte peut-être d'ailleurs à cette affaire à la Révolution française, on l'évoquait tout à l'heure. Mais l'idée, en quelque sorte, que les institutions représentatives, les députés, les assemblées, les parlements, d'une certaine manière, de toute façon, confisquent toujours, à un moment donné, la véritable volonté du peuple et la trahir, l'occulter, vont la compromettre, tout ça. C'est une conviction qui est profondément ancrée en fait dans les mouvements, dans le mouvement ouvrier. Même quand ils décident de participer aux élections sur un mode SOSDEM, social-démocrate, mais c'est déjà quelque chose qui est présent dès la Révolution française. J'évoquais les sans-culottes tout à l'heure. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que le moment de la terreur aussi, au moment de la Révolution, c'est ce moment où en fait les clubs de sans-culottes parisiens estiment que la Révolution est menacée dans son existence même, pas complètement à tort d'ailleurs, et ils estiment qu'en fait que leurs représentants ne font pas le boulot. Ne font pas le boulot et ils décident de faire eux-mêmes le sale boulot d'une certaine manière. Donc là, il y a une espèce de manière, on reprend les rênes, c'est un jeu qui est parfois tragique, mais cette espèce de jeu entre les représentants du peuple et la véritable volonté populaire, ou ceux qui effectivement se réclament de cette véritable volonté populaire, c'est une tendance qui est assez ancienne. Si on suit Muller, ça pourrait avoir une dimension, si tu veux, populiste, cette affaire-là. Ça pourrait avoir une dimension populiste. J'évoquais tout à l'heure, c'est pareil, donc voilà, il y a les sans-culottes, mais ça va aussi avec une forme, du coup, si tu veux, d'attachement à la démocratie directe. Et c'est pour ça que ça nous interroge, nous, parce que c'est, on a des sympathies là-dessus, si tu veux, sur l'idée qu'effectivement, à partir du moment où tu as une démocratie, une délégation du pouvoir à des représentants, cette idée que, du coup, il y aurait forcément quelque chose qui se perd, et qu'en fait, la véritable démocratie, la seule et unique, d'une certaine manière, celle de laquelle il faudrait s'éloigner le moins, ça serait la démocratie directe, type Athènes, mais du coup, incarnée dans les conseils, par exemple, voilà, les conseils ouvriers, les soviets russes, les tentatives de la Commune de Paris, etc. Bon, c'est des choses auxquelles on est plutôt attaché. Mais alors, il me semble que là-dessus, si je ne sais pas ce qu'en dirait Muller parce qu'il n'en parle pas, mais c'est des choses qui nous intéressent nous. Typiquement, il me semble qu'on pourrait parler dans ces cas-là d'un populisme. Je pense que ça rentre effectivement dans la catégorie, y compris dans les critiques que Muller en fait. Mais un populisme qui là, pour le coup, a eu des effets démocratiques. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas des mouvements qui sont fondamentaux, qui sont peut-être, en tout cas au sens que dit, c'est pas des mouvements pluralistes. Bon, en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils se positionnent, ou c'est pas ce qui les caractérise le plus. Et en même temps, ça a des effets démocratiques parce qu'en fait, les revendications ou les effets politiques à long terme de ce type de mouvement-là sont effectivement de nature égalitaire et eux permettent effectivement d'alimenter un débat pluraliste. Bon, peut-être qu'on pourrait effectivement s'en tirer comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les analyses de Müller posent des questions intéressantes, y compris à des gens qui, comme nous, se réclament de cette démocratie directe là, ou de ce type de démocratie radicale là. Et je trouve qu'effectivement cette question du pluralisme, le fait d'avoir toujours en tête que ce qui définit le peuple de la démocratie, c'est quand même avant tout la division, mais la division réelle des intérêts et des valeurs, ce qui fait que il faut toujours être prudent quand effectivement on s'exprime ou on souhaite s'exprimer au nom du peuple, c'est-à-dire dans une perspective démocratique, même si elle est avec tous les modulos qu'on veut, radical, libertaire, populaire, etc., etc. Toujours avoir en tête effectivement quand même cette idée-là que la démocratie, c'est quand même effectivement, ça suppose quand même d'accepter la division au sein du peuple. La volonté populaire, ça n'existe pas en fait. La volonté du peuple, elle n'existe pas avant qu'il y ait eu débat.
Délibération, engueulade,
exactement.
Etc.
Et délibération ou engueulade, ça suppose effectivement qu'il y a débat avec des gens qui ne sont pas d'accord.
Qu'il puisse y avoir ce débat, qu'il puisse y avoir un espace pour ce débat.
Voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est quand même un truc qui est fondamental dans cette affaire-là. Alors, ça fait un peu clause de style ou un peu règle un peu abstraite, mais je crois que à un moment donné, c'est une question qui se pose de toute façon toujours, voilà, y compris dans l'organisation de lutte, etc., etc.
Bon, après, ouais, je pense, ça me faisait penser que aussi, si tu reprends un petit peu quasiment tous les grands mouvements politiques du 19e, dont a hérité au 20e, au 21e, je sais pas encore, presque tous ont pour horizon une disparition de la politique en tant que débat public. C'est-à-dire presque tous se disent que si les choses sont bien gérées, on n'aura plus besoin de débat. Et que soient les communistes, les libéraux et même parfois les anards, tu trouves cette espèce d'idée que, bon, en gros, administration des choses et des hommes.
Bah, l'âge d'or est devant nous.
Ouais. L'âge d'or est devant nous, et quand on aura atteint ça, il n'y aura plus besoin de débattre. Ouais. Et donc, c'est assez marrant, parce que tu vois que dans tous ces mouvements, l'utopie, c'est la disparition du politique, du débat, de la contradiction, et ces choses-là. Finalement, le populisme, c'est peut-être aussi un héritier de ce rêve.
T'as quelque chose comme
de
ça.
De ce rêve fou de faire disparaître le débat, la contradiction et tous les emmerdes.
Ouais. Sauf que c'est un mouvement qui effectivement qui a pas l'ambition de enfin qui ne rêve pas en fait de disparition des pouvoirs ou des pouvoirs. C'est pas le cas, alors que par exemple chez les anards, effectivement, il y a ce truc là. Alors après, on peut en parler, hein. est-ce que c'est légitime ou pas. Il y a l'idée qu'effectivement t'as disparition du politique parce que t'as disparition du pouvoir en tant que tel, donc des rapports de pouvoir dans ce qu'ils ont d'arbitraire, et donc effectivement de ça. Bon, mais ça, pour le coup, je pense qu'effectivement, alors la tradition démocratique, la tradition moderne, hein, de la démocratie moderne, pour le coup, elle est différente. Hein. Elle est différente. Hein. Il y a pas effectivement l'auteur qui est un peu qui est derrière en fait ce que dit Müller. Hein, il le cite d'ailleurs. C'est quelqu'un comme Claude Lefort, par exemple, hein, qui définit évidemment l'invention moderne de la démocratie. D'après Lefort, c'est quelque chose de nouveau, hein, par rapport à la démocratie athénienne. C'est justement l'invention de la délibération et du caractère indéterminé a priori de la volonté du peuple. C'est ça qu'invente la démocratie moderne.
On commence à discuter, on ne sait pas où on va arriver.
On commence à discuter, et si on commence à discuter, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que cette volonté populaire n'existe pas à l'avance. C'est pas le tirage au sort comme chez les Grecs athéniens. C'est même pas l'égalité radicale. C'est pas la démocratie directe, parce que ça suppose effectivement qu'il y ait un espace de discussion, de débat, qui soit un espace de représentation. C'est un espace où effectivement, alors c'est un pari aussi, hein, c'est l'idée qu'effectivement il y a un espace en démocratie où on peut éventuellement par la délibération arriver à des convictions et à des conclusions différentes de celles avec lesquelles on arrive. Hein? Ce qui est moins le cas en démocratie directe, vous avez remarqué. À partir du moment où les représentants ont des mandats impératifs...
Ah oui, ils peuvent moins discuter.
Ils n'ont plus rien à discuter, ils se comptent. Hein, ils se comptent et c'est tout. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des coalitions d'intérêts particuliers, on fait des additions et on compte. Hein? Alors, peut-être que c'est la réalité de la démocratie, voilà, dans les faits, peut-être que ça se passe de toute façon quand même toujours un peu comme ça, ou 9 fois sur 10 comme ça. Peut-être qu'effectivement, c'est une douce utopie d'imaginer que par la délibération, on peut arriver à déterminer une volonté populaire qui serait pas déjà là si on faisait les comptes des rapports de force au départ. Bon, évidemment, faut pas être naïf complètement là-dessus. Mais il n'empêche qu'il me semble que cette idée de pluralisme qui serait, voilà, essentielle en quelque sorte, hein, vraiment, et qui définit ce que c'est que la démocratie, c'est quand même quelque chose chose que, y compris quand on est un libertaire favorable à la démocratie la plus directe possible, je dirais, ou la plus populaire possible, si on peut dire ça comme ça, qu'on doit, à mon avis, avoir un petit peu en tête. Alors, pour terminer, je dirais peut-être deux mots sur justement ce qui... Parce que là, on a parlé des traditions libertaires, de démocratie directe, etc., mais qui se réclament pas explicitement du populisme. Alors, peut-être terminer, dire deux mots sur les mouvements politiques qui, aujourd'hui, se réclament explicitement, justement, du populisme. Alors, j'ai mentionné Podemos tout à l'heure, mais vous avez aussi, évidemment, les mouvements, le mouvement chaviste, notamment, au Venezuela, le péronisme, il y a plus longtemps. Et aujourd'hui, si tu veux un peu les chefs de file, du point de vue intello, hein, je dirais, de cette tendance-là, c'est Chantal Mouffe, et puis, bon, il est décédé maintenant, mais son ancien compagnon, là, Laclau. En 85, ils avaient fait un bouquin qui s'appelait Hégémonie et stratégie socialiste. Et en fait, c'est ce bouquin-là qui a ouvert le débat là-dessus. Avec l'idée qu'en fait, il fallait dépasser... ils sont de formation marxiste, hein, tous les deux. Mais l'idée, c'est qu'il fallait maintenant dépasser les antagonismes de classe un peu à la papa, tu vois, genre classe ouvrière, bourgeoisie. Qu'il fallait même dépasser les antagonismes droite-gauche pour pouvoir construire des nouvelles alliances politiques entre ouvriers et classe moyenne, en gros, justement sous cette étiquette de peuple-là. Alors, c'est un populisme qui est effectivement de gauche, parce que c'est-à-dire que si tu veux, ils pensent pas, évidemment, ils pensent pas une seconde que les peuples existeraient à l'avance, tu vois, et qui reposeraient sur le sang, la terre, l'histoire, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est des pragmatiques, hein. Le peuple,
c'est une stratégie politique,
c'est une construction, si tu veux, voilà.
C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent sortir du marxisme qui divisait classe ouvrière. Exactement. Et employée. Bah, en fait, et donc, plutôt que diviser classe ouvrier et employée, voilà. Il faut les réunir, et puis boum, tu
Exactement.
Balances le peuple.
Tu balances le peuple, mais tu gardes le schéma quand même. Tu gardes le schéma quand même. C'est-à-dire que c'est plus la lutte des classes, c'est la lutte du peuple contre les élites, justement. Et donc, ça mobilise plus large, et donc, c'est plus payant. Et en fait, il y a une. Voilà, ils assument ça parfaitement. T'as derrière une stratégie d'idéologie, si tu veux. Donc, tu brouilles les cartes, mais tu brouilles les cartes, au final, à l'avantage, justement, des catégories populaires, hein, comme on dit. Même si ce peuple est en partie construit, même si, voilà, il faut le maçonner en permanence, etc. Et ils s'inspirent derrière ça d'un concept qui est chez Gramsci, qui est le concept d'hégémonie.
Hégémonie culturelle.
Hégémonie culturelle. L'idée de Gramsci, c'est en fait, c'est un concept qu'il a pondu.
Gramsci, c'est un communiste italien, qui est mort en prison.
Plutôt intéressant. Entre deux guerres, etc. Et qui, en fait, était obsédé par l'idée que, en fait, la révolution n'avait pas eu lieu dans les démocraties européennes, occidentales, et que, alors qu'elle devait avoir lieu, et que si elle n'avait pas eu lieu, c'est parce que, en fait, les classes dominantes avaient réussi, en fait, à faire passer leur domination pour légitime et quasiment naturelle. Parce que grâce à la culture, les valeurs, le débat idéologique, etc., ils avaient réussi, en fait, à quelque sorte à apparaître comme des dominants naturels, et que finalement personne ne rêvait plus de les renverser. Ils avaient défini un sens commun, ce que Gramsci appelle, voilà, une hégémonie. Et du coup, Gramsci, lui, souhaiterait, c'est ce qu'il conseille en tout cas dans les années 30, avant de mourir dans les prisons de Mussolini, bah, que le prolétariat révolutionnaire ait une stratégie d'hégémonie, c'est-à-dire qu'il investisse, hein, le terrain de la culture, notamment des valeurs, des idées, du débat d'idées, pour essayer d'instaurer une contre-hégémonie en quelque sorte. Alors, je termine peut-être un peu là-dessus, parce que vraiment, je trouve que des gens comme Mouffe et Rejón, là, dont on n'avait pas présenté le bouquin ici dans cette émission, la numéro 2 de Podemos, ces gens-là se réclament et parlent de Gramsci à tout bout de champ et de ce concept d'hégémonie, mais il y a quelque chose qui m'est apparu de manière assez évidente en lisant le livre de Müller, c'est que ce concept d'hégémonie et cette stratégie hégémoniste, elle est anti-pluraliste par principe, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement, il y a actuellement une classe dominante qui verrouille le débat.
Parce que quand Gramsci parle d'hégémonie culturelle, en fait, il faut que les spectacles, il faut que la télé, il faut que la pub, il faut que les romans.
Alors, c'est pas du réalisme socialiste, hein, c'est pas ça, c'est plus subtil et plus. Voilà.
Il faut occuper le terrain, il faut occuper le terrain partout.
Il faut occuper le terrain, et surtout, en fait, l'hégémonie, c'est une classe dominante qui impose sa légitimité à une autre, et ben simplement, il faut prendre la place de cette classe-là. Et alors, je veux dire, après, tactiquement, politiquement, etc., ça, c'est pas, on peut pas balayer ça d'un revers de main. Bien sûr que c'est une lutte de terrain importante, on va pas être naïf, on va pas faire les vierges effarouchées sur ce point de vue-là. Mais il n'empêche que, est-ce que c'est ça le dernier mot, si tu veux, d'un projet démocratique de gauche radicale aujourd'hui? Ça, pour le coup, je crois pas. Et le fait de s'en tenir là et de pas avoir, effectivement, dans un coin, quelque part, et même si possible sur le devant de la scène, ces petits avertissements-là, et puis c'est des idées claires sur cette notion de pluralisme qui te fait la ligne de partage, en fait, hein, entre des revendications qui sont démocratiques et puis d'autres qui ne le sont pas, et qui ne le seront pas,
qui ne peuvent pas l'être.
Et qui ne peuvent pas l'être, hein, y compris lorsqu'elles accèdent au pouvoir. Je pense que c'est quand même un petit avertissement qui mérite d'être médité.
Et c'est pas pour rien que cette notion d'hégémonie culturelle qu'on trouve chez Gramsci a été reprise et bien employée par l'extrême droite.
Exactement.
Par exemple en France.
Exactement.
Par des gens comme. Bon, je ne les citerai pas, j'ai même pas envie de les citer, ces connards.
Ouais, allez.
Mais. on va pas leur faire de la pub de pourri. Voilà, donc on vous présentait un bouquin de Yann Werner Müller, Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace. Donc chez Premier Parallèle, voilà donc un petit bouquin c'est très lisible je pense, qui
pas de difficulté,
et donc voilà, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Donc on se revoit normalement, enfin vous nous entendez de nouveau dans 2 semaines, et puis voilà, alors, vous pouvez trouver l'émission sur le site Gurdulu, donc Gurdulu Jeudi Noir Archive, et vous trouverez ça, voilà, sans souci. Au revoir, à bientôt.
Yeah.